même les radios bénéficiant d'un statut officiel, comme c'est le cas en France maintenant et dans quelques pays, sont soumises à des pressions étatiques, politiques, financières, qui leur rendent la vie difficile. Je dois dire qu'on a eu du mal à persuader les radios à ce regroupement, parce qu'elles se replient un peu trop volontiers sur les ghettos locaux. Et il faut que la menace extérieure, l'hostilité sociale devienne forte pour que ce réflexe solidariste arrive enfin. Or, c'est aujourd'hui le cas, la menace est sévère sur beaucoup de radios. Enfin, beaucoup ont compris cette nécessité. J'aimerais que nous arrivions en 2 jours à vaincre d'abord ce réflexe de repli défensif sur le ghetto radiophonique local et à mettre en place quelques axes de convergence au moins qui nous permettent d'être efficaces assez rapidement au niveau fédéral. Alors c'est un appel un peu vibrant et pathétique. Essayez d'oublier un petit peu ces réflexes de ghetto contre lesquels nous avons eu à lutter près de 5 ans.
Je crois qu'il faut qu'on sorte de ce congrès avec une sorte de cahier de doléances ou de cahier de revendications communes pour toute l'Europe, qu'on pourra présenter d'une part évidemment aux instances nationales, mais aussi et surtout aux instances européennes. Le deuxième thème, je crois que c'est un thème qui est plus à la fois peut-être plus positif et plus difficile à mettre en pratique, c'est-à-dire c'est notre travail en commun. Nous avons déjà dans cette fédération environ, je crois, 300 radios qui sont représentées, directement ou indirectement. Et nous pensons que ça représente un potentiel fantastique à la fois de production d'informations et de programmes. Et nous pensons qu'au-delà des difficultés techniques et de langue, il faut quand même qu'on arrive à mettre en valeur ce potentiel. Nous avons déjà, depuis la création de la fédération, mis en place ce système de cartes de presse, dont je crois que vous avez, j'espère, tous entendu parler. C'est une première étape dans la constitution d'un réseau pour un travail en commun. Donc ça serait le deuxième grand thème, c'est qu'est-ce qu'on peut développer comme travail en commun et avec quels moyens techniques. Je vais laisser traduire, mais en disant encore avant que peut-être pour commencer, on peut faire le... Je crois que vous avez déjà parlé d'un tour de table, c'est-à-dire une très rapide présentation de tout le monde.
Ce qui s'est passé d'important chez nous, il me semble, c'est la relance de la fédération, parce que c'était une fédération qui était plus ou moins endormie depuis plus d'un an.
L'ALO.
C'est l'ALO, l'Association pour la Libération des Ondes. Et ça s'est passé par deux assemblées en 2 mois. On a relancé ça de manière un peu forte. Et on a eu la surprise, c'était une initiative de 3-4 radios sur la partie francophone de la Belgique. On a eu la surprise de voir que 20 à 25 radios étaient présentes lors des assemblées. Donc je rappelle qu'on est 40-50 dans cette fédération. Alors, nous, ça nous semble très important de participer à la fédération. Parce que chez nous, la situation est toujours assez dramatique pour ces radios, puisque d'une part, on n'a pas de ressources, l'État n'a pas d'intervention financière pour nous. Il n'y a pas non plus de TUC, comme ça existe en France, c'est-à-dire des gens qui peuvent travailler sans que la radio doive payer ses employeurs. Et d'autre part, ce qui est le plus important, c'est que les radios de la Fédération ont été brouillées systématiquement pour la plupart d'entre elles depuis de nombreuses années, à des taux variables. Ce qui veut dire que la situation des radios libres en Belgique est devenue très critique et qu'il y a une démobilisation des animateurs et fatalement aussi, je veux dire, des auditeurs. Alors nous, on espère grandement pouvoir obtenir une fréquence en Belgique. Nous sommes des radios qui sont reconnues par l'État, par un décret de loi, et on espère avoir une fréquence protégée. Et on a eu, je ne vais pas dire le bonheur d'apprendre, mais enfin, c'est quand même une nouvelle positive. Il a été décidé dans les tout derniers jours, là, un octroi de fréquence pour les différentes radios en Belgique, y compris les radios commerciales, mais y compris les radios de la LO. Alors, on va voir si ces fréquences vont être défendues, vont être protégées, et si on va enfin pouvoir faire entendre notre voix dans cette jungle-là.
La situation en Espagne de las radios libres, sabéis, sigue siendo muy delicada. En estos momentos, el gobierno socialista sigue sin haber reconocido la existencia de las radios libres, a pesar de que ha presentado un proyecto de ley, la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, donde quería regular la frecuencia modulada, entre otras cuestiones. Lo que pasa que mínimamente ha mencionado la existencia de las radios libres, pero no las ha mencionado como radios libres, sino como radios con fines culturales. Pero que lo que realmente nosotros entendemos es que esta gente lo que quiere es conceder radios, hacer coincidir radios culturales con radios municipales, que en definitiva vuelven a caer en manos del Estado y vuelven a ser radios públicas. Lo que pasa es que en España las radios libres en estos momentos han sufrido un gran desgaste y son bastante pocas. Hemos hecho intentos de reactivar el movimiento de radios libres y en ello estamos trabajando. Pero realmente es difícil, porque cuando no son cerradas por los gobernadores civiles, pues sufren amenazas de los ayuntamientos que las cierran o denuncias de radios públicas o de radios privadas que contribuyen a su cierre. Al carecer de subvención, es decir, al no tener ningún tipo de ayuda económica, pues las radios libres nos vemos...
Alors, la situation en France, nous la suivons évidemment de manière plus proche, puisque nous avons des contacts institutionnels quotidiens, ou presque. Alors, après la libéralisation du mouvement des radios libres depuis 1981, nous assistons à un reflux, c'est-à-dire à un mouvement inverse depuis les élections de mars 1986. Ce mouvement se traduit en ce moment par une réinstitutionnalisation des radios locales, c'est-à-dire que l'accent est mis majoritairement sur les radios qui sont susceptibles de fonctionner suivant l'économie de marché, c'est-à-dire les radios commerciales et les grands réseaux, mais également par la création et le développement d'un grand nombre de radios proches des partis politiques de l'actuelle majorité. Cela se traduit par des décisions imminentes à partir du mois de juin sur les renouvellements des autorisations qui arrivent en expiration en France et qui se produiront toutes dans le courant de l'année 87 et de l'année 1988. Cette situation est également pour ce qui reste des radios libres, qui sont quand même très nombreuses, il y en a encore près de 450 dans notre pays, par une réduction progressive des aides et également des inquiétudes quant au renouvellement des autorisations d'émettre qui se produisent, comme je l'ai dit, à partir du mois de juin. Nous restons néanmoins un secteur beaucoup plus fort que celui des autres pays d'Europe, d'après ce que nous avons pu constater, ce qui a été dit. Je pense que nous pourrons, si nous maintenons la pression sur les pouvoirs publics, conserver un secteur fort de plusieurs centaines de radios, quoi que l'on dise. C'est une situation qui est intéressante, qui fait probablement de la France un pays leader sur l'Europe. Et l'intérêt pour nous de la Fédération européenne des radios libres est très certainement que s'il y a harmonisation des procédures, notamment à propos de l'acte unique en 1992, c'est-à-dire dans 5 ans, il faudra que la France et les radios françaises et le groupe que nous représentons, le groupe de pression maintenant, puisque nous sommes assez nombreux, interviendra de manière dominante auprès des institutions européennes pour que cette harmonisation se passe un petit peu comme un principe de vase communicant, c'est-à-dire que ce que nous avons, nous, puisse s'appliquer aux autres pays d'Europe le plus rapidement possible, étant entendu qu'on vous demandera la contrepartie si nous devons nous affaiblir dans un cadre politique défavorable au cours des années qui viennent. Voilà, j'ai à peu près terminé.
Les radios en Grèce sont illégales. Il y en a beaucoup. Et ce que dit Alexandre, c'est surtout dans les provinces qui sont intéressantes. Lui, Alexandre, fait une radio qui s'appelle Le Pirate depuis un an, qui émet tous les week-ends. Et il fait partie de la Fédération européenne des radios libres. Et depuis qu'on a fondé la fédération, Alexandre essaye, avec 5 autres radios qui ne sont pas d'Athènes, de former une section grecque de la Fédération européenne des radios. Il y a pour eux un réel intérêt à ce qu'on fait ici, parce que tous ceux qui peuvent venir d'Europe pour essayer de débloquer la situation en Grèce, ça les intéresse énormément. Il y a eu quelque chose de tout à fait nouveau au mois de décembre-janvier, c'était le ministre de la Jeunesse qui s'occupe de ce dossier, et c'est le fils de M. Papandreou, qui est le père. Et il a décidé, et il a dit dans une phrase que ce serait intéressant de voir se développer des radios libres en Grèce. À partir de là, ils ont réuni commission sur commission, et il faut dire qu'Alexandre, en tant que fer, il a été de temps en temps contacté au niveau ministériel pour avoir des informations ou pour avoir des conseils. De là à qu'il tienne compte des conseils de la fer, il n'en passe, mais au moins il consulte. La nouvelle loi qui avait été promise pour le printemps est renvoyée évidemment au calendrier grec, et c'est à cause de la situation politique actuelle en Grèce, les tensions avec la Turquie, les histoires politiques, etc. Et ce qui a d'intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de radios qui émettent en ce moment. Voilà. Alexandre, il dit aussi qu'il est friand d'informations et de relations avec les radios du reste de l'Europe. On va vous donner son adresse. Et il demande aussi, dans les pays où il y a des minorités grecques, si c'est possible de faire passer des cassettes ou des informations en grec. Lui, il est tout à fait disponible à faire ce travail-là dans les villes où il y a des minorités hellénophones.
La situation se présente comme ça. En 1983, on a politiquement gagné, c'est-à-dire on a évité une loi qui déjà prépare une percée totale des radios commerciales. Mais la pratique était bien différente. Sur 10 demandes, ils ont autorisé que 3 radios, bon, qui c'était pas évident que c'était des radios qui veulent gagner du fric avec leur programme. Maintenant, après trois ans de radio pratique des radios privées en Suisse, la situation est comme ça que personne ne parle plus des devoirs de la communication sociale, de la protection des minorités, tout ça. Et tout le monde est orienté vers une dynamisation, enlever les obstacles qui sont encore là pour les radios, pour qu'ils puissent vraiment gagner de l'argent et qu'ils puissent s'étendre sur tout le territoire, c'est-à-dire enlever les limites locales, strictement locales, qui existaient jusqu'à présent. En même temps, on peut observer un laisser-faire aussi envers les radios commerciales et un contrôle très strict sur les programmes, notamment de Radio Laura, qui est un programme qui n'est vraiment pas contrôlé par des autorités, par des partis politiques, qui est organisé par la base active elle-même. Là, c'est une certaine tendance de criminalisation observée dans ce domaine-là. Une nouvelle loi est en train d'être préparée, d'être rédigée, et on peut déjà savoir qu'elle ne prévoit plus les radios associatives qui déjà ont été autorisées seulement comme alibi il y a 3 ans. Tout ça, ça va rendre très difficile de maintenir l'idée d'une communication sociale à travers les ondes FM, et je parle d'une préoccupation de seulement de que ça reste dans les têtes, que ça peut être autre chose qu'un distributeur de musique mal choisie. La situation actuelle, à Zurich, on a la radio Laura qui existe encore et qui est quasi la seule vraiment radio libre comme on peut l'observer dans d'autres pays. Il y a à Lausanne, Radio Acidule, qui a été appuyée et toujours appuyée par des partis de la gauche traditionnelle, qui a aussi, parce qu'elle ne se lance pas complètement dans la concurrence commerciale, des problèmes très graves, parce que, c'est-à-dire, les PTT ne leur donnent pas, ne leur garantissent pas une qualité de réception comme ils font pour d'autres radios. Alors, ils négligent. Et en plus, ils sont confrontés à un monopole local qui leur rend presque impossible de faire connaître leur programme dans la presse écrite, ce qui n'est pas, par exemple, le cas à Zurich, où quand même on peut annoncer les programmes. Il y a là aussi un problème qu'ils sont dérangés par les radios, notamment de la France, où il y a aussi beaucoup d'intérêts suisses dedans, parce que là, il n'existe presque pas de limite technique. Alors, on utilise le territoire français pour rendre impossible, pour brouiller les radios suisses, qui sont vraiment tenues à garantir des règles techniques très strictes. Là, ça marche très bien, c'est bien le contraire qu'en Italie, en Suisse. Ça marche très bien, normalement. Mais là, dans le cas de Radio Acidule, ça, c'est vraiment, au niveau technique, beaucoup de problèmes pour eux. Alors, eux, ils proposent aussi que peut-être qu'on se mette d'accord à la FERL, que les radios qui s'y associent respectent des limites techniques, surtout ne brouillent pas d'autres radios de caractère associatif. On est intéressé en échange avec l'étranger pour rendre attractifs nos programmes. Je crois que ça va être très intéressant et aussi ça s'impose maintenant pour qu'ils se fassent remarquer là, les radios qui ne sont pas comme les autres.
Bon, on a alors un système tout à fait réglementé qui diffère un tout petit peu du système qui existait pendant la période d'expérience, dans le sens que maintenant, ce sont les communes, les autorités locales qui donnent la permission, l'autorisation aux gens qui demandent de l'avoir. Et en principe, tout le monde peut avoir une autorisation s'il s'organise dans un groupe qui a pour seul but d'émettre. Les journaux ne sont pas permis. Les journaux étaient permis pendant la période d'expérience. Maintenant, c'est fini. Mais fini, ça veut dire quoi ? Tout le domaine est en plein développement, alors on ne sait pas si la loi va être changée, corrigée ou qu'est-ce qui va se passer. Tout ce qui concerne le financement des radios, la loi ne dit rien. En fait, il n'y a pas du tout un volet financier qui vient à l'aide des radios. Et la publicité au Danemark, en général, n'est pas permise. C'est-à-dire que c'est interdit de passer de la publicité et à la télé et à la radio. Mais ça aussi, ça va changer. D'abord, c'est permis sur une chaîne étatique à partir de je ne sais pas quand, de passer de la publicité. Et il y a déjà pas mal de radios qui passent de la publicité comme ça en cachette. On fait des petits programmes de compétition et puis on envoie les écouteurs dans le magasin chercher le café qu'ils ont gagné. Des choses comme ça. Enfin, même plus grave, des sponsors et tout ce système-là. Pendant la période d'expérience, Radio Sørgelund ou Sørgelund Radio a pris des initiatives avec d'autres radios pour qu'on s'organise dans une fédération. Alors, on a réussi, on a établi une organisation nationale ou une fédération avec je ne sais pas combien de radios. Mais de toute façon, c'est une fédération qui a suivi de près tout le domaine législatif, qui a été le pourparler vis-à-vis des organisations de copyright et qui a quand même réussi à faire passer un contrat avec ces organismes-là qui est mieux que ces organismes-là avaient proposé. Mais c'est toujours un contrat qui n'est pas acceptable pour Sorgelon Radio, c'est-à-dire la radio où je suis, parce que c'est un contrat qui taxe les horaires d'émission. Alors ça, on ne peut pas accepter. On veut bien payer pour la musique, mais on ne veut pas payer pour la libre expression comme ça. Alors, on a été obligé d'abandonner, de faire passer la musique qui est contrôlée par ces organismes-là, c'est-à-dire, maintenant, on joue de la musique classique, de la musique traditionnelle, ou de la musique qui n'est pas taxée. Il y a eu, avec la loi permanente, il y a eu des problèmes en ce qui concerne la distribution des fréquences, qui est sous le domaine des PTT. On a eu un choc à Copenhague parce qu'ils viennent nous raconter qu'on aura 3 fréquences à Copenhague, alors qu'il y avait 36 radios qui avaient eu l'autorisation d'émettre. Alors, de nouveau, on a dû se battre. Et on ne savait pas très bien si c'était une décision politique ou si c'était pour des raisons techniques qu'on ne pouvait avoir que 3 fréquences à Copenhague. Tout le plan de fréquence de Danemark était secret. On n'a pas pu vérifier le plan avec des experts. Alors, on a dû se battre comme ça. Et là aussi, on a lutté à l'intérieur de la Fédération nationale. Et finalement, on a obtenu 6 fréquences pour Copenhague, c'est-à-dire en moyenne 6 radios pour chaque fréquence. Et quand tout ça a débuté, il y avait des radios qui ne pouvaient plus être écoutées parmi les auditeurs qui, avant, pouvaient les recevoir. Alors, de nouveau, il fallait se battre. Mais, enfin, ça paraît être résolu, plus ou moins. Sauf qu'évidemment, c'est toujours trop peu. Et, bon, au Danemark, comme ça, je crois que il y a à peu près 400 radios qui se sont présentées, qui veulent bien avoir une autorisation. Et pour l'instant, je crois qu'il y a une centaine de radios au Danemark. De ces radios, ça varie. Il y a des radios religieuses, des radios sectaires, des radios des petits groupuscules. Il y a des radios qui sont entièrement, enfin pas commerciales dans le sens qui passent des publicités, mais enfin qui font des compétitions tout le temps, qui sont supportés par des auditeurs qui peuvent choisir une chanson ou quelque chose comme ça et qui payent pour faire passer cette chanson. Et Sorgelon Radio, c'est financé par des organisations ou des groupes ou des soi-disant mouvements écologiques qui sont membres de la radio. Il y en a qui reçoivent en même temps quelques heures d'émission qui constituent un groupe de rédaction. Il y en a qui ne souhaitent pas avoir la parole sur la radio. Et à part ça, il y a tous les bénévoles qui payent s'ils ont de l'argent et qui ne payent pas sinon pas. Et puis on fait des fundraising, des campagnes comme ça, 24 heures sur 24, pour demander aux auditeurs qui nous payent.
Je représente le Hollande. Hollande, c'est l'association des organisations de radiodiffusion télévision locale aux Pays-Bas. On unit presque toutes les radiotélévisions locales. Maintenant, ça veut dire que le Hollande a plus ou moins 190 membres, dont environ 120 en possession d'une autorisation obligatoire pour faire la radiotélévision locale. Les autres membres accomplissent déjà les conditions nécessaires pour obtenir une telle autorisation, mais ne sont pas encore prêts pour le demander parce que leur organisation interne n'est pas encore tout à fait en ordre. Au long fait pour cette organisation, par exemple, la négociation avec les autorités quand il y a un nouveau projet de loi ou un changement de réglementation, de règlement, c'est le long qui parle avec les responsables. Et on fait aussi la négociation, par exemple, avec les ayants droit des droits d'auteur. cette semaine, le Parlement néerlandais a adopté une nouvelle loi sur les médias. Dans cette loi, on trouve aussi la disposition sur la radio et télévision locale. Cette disposition correspond avec les règlements qui existent déjà aujourd'hui, mais qui ne sont pas des lois, mais seulement des règlements ministériels. Les organisations qui veulent avoir une autorisation doivent être organisées démocratiquement. Ça veut dire que ce doivent être des organisations socioculturelles ouvertes pour tout le monde, à but non lucratif et indépendantes des autorités, une indépendance qui est garantie par le statut dans la loi. Aux Pays-Bas, on ne connaît pas une différence entre radio et télévision. Les organisations locales peuvent utiliser toutes ces deux formes de médias. Les plus grands problèmes actuellement sont la délibération des ondes et le financement. En outre, probablement, le premier problème sera fini parce que on va donner plus ou moins une 500 fréquences aux radios locales. L'autre problème, le financement, reste dans la nouvelle loi. Il n'y a pas une disposition qui donne de financement structurel aux radios locales. Maintenant, il est obligatoire qu'eux-mêmes cherchent partout des moyens. La publicité n'est pas permise et pour le moment, il n'y a pas beaucoup de subventions pour les radios locales. De temps en temps, on nous donne des subventions pour certains projets très précises. Par exemple, dans quelques municipalités, il y a maintenant un projet sur la minorité. On fait des programmes particulièrement pour la minorité. Bien sûr, aux Pays-Bas, on a aussi beaucoup de radios pirates. Eux, pour la plupart, ils ne font que des émissions de musique. Quelques parmi eux ont aussi des buts plus sérieux, mais c'est très rare. Le Holon n'appuie pas ce genre de radios pirates. Et il est notre point de vue que les objectifs de radio pirates sérieux peuvent être aussi couverts suffisamment par la nouvelle loi et le système qui est mis dans cette loi.
Au Portugal, nous sommes en train de vivre la décennie des ondes libres. La démassification et surtout les mouvements de décentralisation ont provoqué la nouvelle situation que nous vivons maintenant. Les radios sont comme des champignons actuellement. Et à ce moment, il n'est pas possible connaître avec précision leur nombre. Mais, malgré sa grand risque d'erreur, je peux vous dire qu'il y a plus de 600 radio libre. À Lisbonne, il y en a presque 50 et à Porto, à peu près 30. La plupart sont malheureusement des radios commerciales. Nous vivons un moment de véritable explosion. En mai de 1996, la proposition de loi de licenciement des stations émettrices des radiodiffusions enregistrait seulement 120 et 10 mois après, ces chiffres, ces nombres, a quintupliqué. La qualité est le problème. La musique anglo-saxonique, les tops et la publicité prédomine. Je dirais plus, peu d'entre elles ont service d'information. À propos de cette faible qualité, on dit au Portugal normalement que les radios libres sont pirates. Soyez-en, pirates sans la charge sémantique du bon marginal, que sera mieux. Mais dans cette vraie anarchie radioélectrique, tout n'est pas mal. La grande maxime dont l'exception confirme la règle, dit bien, de la situation actuelle. Effectivement, il y a une douzaine d'ondes libres qui se distinguent des autres par leur qualité. D'entre elles, on peut citer par exemple la radio Azul, radio bleue, de la ville de Setúbal, la téléphonie, la nouvelle antenne, la radio antenne libre, la radio Ribatejo, radio Caos, radio Delirio. Mais aucune n'est légale. En exceptant les deux radios nationales, la radiodiffusion portugaise d'État et la radio Renaissance d'Église, tous les autres ne sont pas légales. Actuellement, après un long débat entre la gauche et la droite, nous avons finalement la loi sur les radios locales. A été bloqué. Cette loi, approuvée par le Parlement en décembre dernier, a été bloquée par le veto présidentiel. Et après une grande campagne de pression dans les médias, elle est retournée au pouvoir parlementaire en février et la votation a été finalement confirmée. Les partis socialistes, les partis rénovateurs démocratiques d'ex-présidents de la République et les communistes ont gagné sur les partis gouvernementaux, les partis social-démocrates et les démocrates chrétiens. Les principales radios libres ont soutenu la loi, cette loi. En face de la loi, des fréquences seront distribuées par une réglementation gouvernementale spéciale. Maintenant, nous avons un long chemin à parcourir à cause des exigences légales et à cause de notre exigence fondamentale, la qualité. Par tout ça, ma institution que je représente, le Centre de formation des journalistes de Porto, travaille en ce moment sur un projet professionnel de coopération avec la TSF de Lisbonne, qui est aussi en train d'être légalisé et qui a bénéficié d'une aide du Fonds social européen. Une grande aide pour la formation des cadres qui vont faire cette radio. C'est un projet ambitieux, notre de TSF, et j'espère parler de sa concrétisation dans les prochains congrès.
À l'heure actuelle, il n'y a pas de radio communautaire autorisée en Grande-Bretagne, c'est-à-dire ce qui serait l'équivalent des radios libres. Il existe à l'heure actuelle en Grande-Bretagne deux secteurs de la radio qui sont autorisés. Le premier est contrôlé par la BBC et financé par des fonds publics. Le second est contrôlé par un organisme indépendant et financé de manière privée par la publicité. Les deux, de toute façon, sont des secteurs soumis à la tutelle de l'État et extrêmement réglementé en ce qui concerne, par exemple, les informations qui y sont diffusées. Au nombre des radios illégales, il y a également les radios pirates, que nous appelons également des radios libres, mais ce sont pour l'essentiel des radios qui émettent des programmes exclusivement musicaux ou intéressants des petites entreprises locales. Depuis des années déjà, il y a une campagne au Royaume-Uni en faveur d'un troisième secteur pour la radio, qui serait un secteur pour la radio véritablement communautaire. Et c'est à cette fin que s'est constituée l'Association des radios communautaires, qui a élaboré un code de pratique, dont je ne vais pas vous décrire par le menu en quoi il consiste, mais j'en ai apporté un certain nombre d'exemples qui sont à votre disposition. En fait, comment définissons-nous la radio communautaire ? La radio communautaire est une radio qui à la fois donne accès aux communautés locales et est contrôlée par les communautés locales. Les communautés locales, nous les définissons à la fois d'un point de vue géographique dans certains cas ou comme rassemblement de groupes d'intérêt dans d'autres cas. En août 1985, le gouvernement britannique, cédant aux pressions de l'Association des radios communautaires et des radios pirates, a annoncé qu'il allait se livrer à une expérience de portée limitée dans le domaine de la radio communautaire. Et il a invité toutes les radios que cela intéressait à soumettre des dossiers en vue de l'octroi d'un certain nombre de concessions. Il y a eu plus de 260 demandes alors que l'on avait annoncé que 21 radios seraient autorisées à émettre. Ensuite, deux membres de l'Association des radios communautaires, mon organisation, ont aidé le gouvernement à faire son choix. Et un certain nombre de radios ont été désignées comme autorisées à émettre. Mais tout à coup, en juillet 1986, c'est-à-dire il y a un an, le gouvernement a annulé de but en blanc toute l'expérience, sous prétexte que ce nouveau secteur n'allait pas être réglementé comme il fallait, et en disant qu'il fallait tout d'abord refondre entièrement la réglementation et la règle du jeu même d'un point de vue expérimental, avant de se lancer dans cette expérience. La dernière nouvelle en ce qui concerne l'attitude des pouvoirs publics face aux radios communautaires, c'est la publication d'un livre vert qui s'intitule « La radio des choix et des occasions ». Il semblerait à la lecture de ce document que les choix soient rares et les occasions pratiquement inexistantes. En fait, l'intention de ce texte est d'amener le secteur public britannique a une certaine déréglementation, mais qui serait exclusivement en faveur des radios strictement commerciales. C'est ainsi que on y trouve, par exemple, des dispositions qui vont empêcher les radios communautaires de faire des appels de fonds auprès du public, qui vont les empêcher en fait de se livrer à toutes les activités qui assurent leur survie, mais en revanche rien n'y est dit contre le monopole de fait qu'auraient les radios commerciales ou contre la propriété de radios par des groupes de presse, des groupes d'édition. Il est donc dans notre intention de nous battre autant que faire se peut contre ce texte pour faire reconnaître la nécessité d'un véritable secteur communautaire en matière de radio par les pouvoirs publics, c'est-à-dire le contraire de ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, qui est une radio en fait commerciale et une radio pour les riches.
Je voudrais commencer par vous décrire la situation des radios et des médias en général en République fédérale d'Allemagne. En 1979-1980, il existait dans la plupart des grandes villes allemandes des radios pirates. Toujours est-il qu'elles ont été très fortement réprimées par les forces de police et ne pouvaient donc émettre que pendant de très courtes émissions. Aujourd'hui, ces radios pirates ont pratiquement disparu et n'émettent plus qu'à l'occasion de grandes manifestations. Donc la situation est la suivante. D'un côté, il y a les forces de police et la poste qui répriment fortement toute initiative de radio libre. Et d'un autre côté, il y a le changement de loi qui a lieu actuellement en Allemagne. Actuellement en Allemagne, la loi qui définit le monopole d'État pour la radiodiffusion est en passe d'être changée. Voilà. Et en ce qui concerne la situation à Fribourg, elle est légèrement différente dans la mesure où Radio Dreieckland existe depuis longtemps. Radio Dreieckland a commencé par émettre 3 heures par semaine et puis a émis 3 heures quotidiennement. Il s'agit en fait de la seule radio libre allemande qui a pu donner officiellement, donc publier son nom ainsi que l'adresse de son siège. Et cela uniquement parce qu'elle œuvre en collaboration avec ses amis de Radio Dreieckland Colmar, grâce auquel elle arrive à émettre sur Fribourg. Radio Dreieckland Colmar a pu commencer à émettre lorsque le président Mitterrand a donc déclaré que les radios libres ne seraient plus poursuivies. En 1984, en République d'Allemagne, on a commencé à introduire les premières radios privées commerciales. En fait, elles n'ont pas été introduites grâce à une loi, mais dans le cadre de projets pilotes. Et c'est ainsi qu'en octobre 1984, il y a eu donc une première radio privée commerciale qui a commencé à émettre à Fribourg. Ces lois, c'est les radios, donc, comme je le disais, ne rentrent pas dans le cadre de la loi qui régit les médias en Allemagne, qui s'appelle le Fernmelde Anlagengesetz, qui, je voudrais bien le signaler, date en fait du Troisième Reich. Radio Dreieckland est soutenue actuellement par environ 120 groupements politiques et n'a jamais réussi à obtenir un statut légal, malgré toutes les demandes qu'elle a faites auprès de la Poste, du gouvernement et du Land. La radio est soutenue par les Verts, différents groupements religieux, par donc des églises, et également par des groupes politiques de gauche. Le 25 avril 1984, Radio Dreieckland a émis sa première émission en direct sans avoir pour autant d'autorisation. 3000 personnes étaient donc présentes dans cette émission. Et il s'agit là de montrer que l'on pouvait faire une radio et une radio qui présente de bonnes émissions et une radio qui va à l'encontre de toutes les radios privées que l'on peut avoir, qui en fait visent à une uniformisation générale. Il y avait donc une volonté d'une radio où il existe des débats et où l'on ne soit pas uniquement préoccupé par les taux d'écoute qui en fait ne servent qu'à obtenir des recettes publicitaires. En conclusion, je voudrais donc rappeler qu'aujourd'hui en RFA, les lois qui sont mises sur pied prévoient en fait l'introduction uniquement de radios privées commerciales. Par ailleurs, j'aimerais bien vous parler de Radio Dreieckland, mais ici, il faut que je reste brève. Je voudrais signaler que la police française a aidé les forces de police allemandes à saisir du matériel en France. C'est un point important. Il existe en Allemagne d'autres initiatives telles que comparables à Radio Dreieckland, telles que les initiatives de Tübingen et de Heilbronn. À Berlin, il existe une radio libre quelque peu différente dans la mesure où elle accepte certaines publicités. Et je voudrais vous signaler en dernier lieu la radio de Mayence, qui est également une radio de gauche.
Moi, je suis là pour parler de la FERU, la Fédération européenne des radios universitaires et estudiantines, qui a été créée un petit peu avant la vôtre, puisqu'elle date de juillet 1986. Dont le siège social est établi ici à Strasbourg, au siège de Campus FM Strasbourg. Les objectifs sont un petit peu les mêmes, puisque nous avons pour but de promouvoir l'idée européenne, d'en favoriser sa diffusion par les moyens audiovisuels, de développer surtout les échanges d'informations entre les différentes associations membres, d'assurer le développement, le rayonnement, la promotion et la sauvegarde des associations membres, ça c'est le côté un petit peu politique, d'élargir par la recherche permanente d'autres membres notre petite famille et de favoriser la formation par l'échange d'animateurs et stimuler la création médiatique au sein des radios qui ont toutes un lien institutionnel avec les universités. C'est peut-être ça qui nous différencie le plus des autres organisations, des autres fédérations, puisqu'il faut que nous ayons un lien étroit avec l'université ou avec une école d'enseignement supérieur afin de toucher la population étudiante et aussi de promouvoir le fonctionnement, de développer la structure et le potentiel des universités. Bon, tout ça, c'est très beau, ça fait partie des statuts que je me suis empressé de lire parce que c'était plus simple que de m'en souvenir. Mais il y a néanmoins des objectifs qui sont étrangement semblables aux vôtres. On retrouve une communauté d'esprit, un sentiment de difficulté un peu similaire. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui à titre d'observateurs. Nous pensons qu'il serait bon qu'après ce tour d'Europe qui a duré un petit peu, vous vous attiez à une tâche plus concrète parce qu'en fait, nous, c'est ça qui nous intéresse vivement. Nous avons peut-être, puisque nous avons un champ assez limité, l'intention de rejoindre la FRL, dès lors que ce sera possible, dès lors qu'une décision par l'Assemblée générale aura été prise de la FERU.